Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Je dis tout le temps que savoir vendre, ça n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui s'apprend comme toutes les autres. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente pour t'aider à dépasser tes objectifs et surtout à rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Bref, ici on parle de tout ce dont tu as besoin pour vendre bien et plus. Alors aujourd'hui, je discute avec Arnaud Bellinga. Arnaud Bellinga, c'est le CEO et cofondateur de Breakcold. Et Breakcold, c'est le CRM du futur, en tout cas pour moi, qui intègre le social selling pour closer des deals plus facilement. Je l'ai rencontré via LinkedIn l'an dernier et j'ai adoré sa vision de la vente. Et donc là, on va rester à peu près 45 minutes ensemble. On va parler de comment se font les meilleures ventes en 2023, le bon mindset à avoir dans un contexte où les produits et les services se ressemblent tous, et surtout comment interagir avec ses prospects sur les réseaux pour conclure des ventes naturellement. C'est ta dose de culture sales. Bonne écoute. Salut Arnaud, ça va ?
Salut Lucia, ouais, ça va, merci, et toi ?
Bah écoute, très très bien. Écoute, je suis très contente de t'avoir sur ce podcast. On va du coup parler de ce que tu fais. Tu es notamment le CEO et le cofondateur de Breakcold, une solution hyper hyper cool, en tout cas mon coup de cœur des solutions sales en fait de cette année. Je me souviens en fait, du coup je t'ai découvert probablement sur les réseaux sociaux. Tu disais globalement que il fallait qu'on arrête de vendre comme en 2010, ça m'avait marqué. Fallait qu'on vende comme en 2023. Du coup, c'est de quoi pour toi vendre comme en 2023 ? Peut-être que tu peux te présenter un peu avant, mais voilà. En fait, en tout cas, je trouve que ça te représente bien cette phrase-là.
Ouais, bien sûr. Et du coup, pour répondre à ta question, à force de faire des projets avec mon cofondateur Mathéo et en faisant Breakcold, du coup, qui est un peu le CRM pour construire des relations B2B en 2023 et pas en 2010, justement. Tout le sujet, c'est qu'à force de prospecter en ligne, on a remarqué nous-mêmes quand on closait des ventes et quand aussi d'autres personnes closaient des ventes, que les meilleures ventes que tu fais en général, c'est pas quand tu vends, c'est quand tu construis des relations. C'est hyper bête, ça sonne un peu cheesy. Mais c'est la vérité et ceux qui ont vraiment l'expérience en tant que sales le savent très bien. Et aujourd'hui, en fait, il y a énormément de tools qui te permettent de prospecter, qui te permettent de closer des deals. Mais en fait, tous ces tools, ils sont hyper axés sur l'automatisation souvent agressive des tâches, que ce soit via LinkedIn, via cold email. Les gens, ils se font bombarder de cold email de plus en plus. Maintenant, il y a des tools qui te permettent d'envoyer des cold email at scale, LinkedIn, de partout. Et en fait, tous ces avantages-là qui au début te permettaient de générer des leads super facilement parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de compétition, c'était nouveau. Aujourd'hui, les gens sont habitués de plus en plus, même les prospects les plus loin du digital. Et en fait, pour vendre de manière moderne, aujourd'hui, on a LinkedIn, on a les emails, on a tout ça. Et donc, pour se distinguer, il faut vraiment être capable de se démarquer de cette compétition. Et donc, c'est le fait de vraiment construire une relation B2B. Tu vas le faire au-delà de l'email. Au lieu d'un simple code email, tu vas, en fait, par exemple, envoyer un message, liker des posts de quelqu'un sur LinkedIn. Tu vas créer une relation petit à petit. Cette personne, elle va se rappeler de toi parce qu'en fait, vu que tu likes ses posts et que tu commentes sur ses posts, elle va te répondre. Et donc, si elle te répond, en fait, quand toi, tu vas poster, l'algo va te mettre en avant auprès de cette personne. Et donc, de fil en aiguille, en fait, naturellement, tu retranscris ce qui sera apparu dans la réalité pour construire une relation B2B et tu vas closer ta vente sans même te rendre compte et tu vas dire « Ah putain, j'ai fait une vente » alors qu'en fait, tu ne pensais pas forcément vendre. Et je le remarque de plus en plus sur des clients qu'on a ou nous-mêmes, que des fois, en fonction du cycle de vente, que ce soit un mois, deux mois, trois mois, on close des ventes un peu sans s'en rendre compte, juste parce qu'en fait, tu likes un peu des posts, t'envoies un petit message, mais de manière précise où tu rebondis sur un poste. Et en fait, tout en faisant ce cycle naturel, tu vends. Et quand on cumule ça avec l'essor du content, donc faire du content sur LinkedIn, Twitter, même YouTube en soi, parce que la vente évolue aussi avec ces domaines, avec tous les influenceurs B2B qui montent aussi furieusement, en fait, la vente, elle évolue. Et pourquoi 2020 ? Faut vendre en 2023 et pas en 2010 ? Parce que du coup, tous ces outils-là, ils ont été conçus dans un monde qui était uniquement l'email. Et aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où tu as LinkedIn qui a pris une grosse partie dans le B2B. Tu as Twitter qui, pour beaucoup de B2B sur le marché anglophone, c'est un gros truc. On arrive sur… la façon de vendre, elle va forcément évoluer. Et ces outils, sont toujours que dans l'email. Donc, faut s'adapter.
Ok. Du coup, en fait, moi, surtout ce que tu dis, en fait, je suis complètement d'accord et je pense que ça va évoluer. Et ce que j'aime bien dire, en fait, c'est que je pense que le prochain canal, en fait, globalement, qui sera le plus important pour un sales, c'est le content, je pense. Par contre, tu vois, quand moi, je suis vraiment sales et là, dans mon quotidien aujourd'hui, l'email reste mon premier canal, le cold call aussi. Et d'ailleurs, on voit plein de gens qui disent « Ouais, aujourd'hui, faites du cold call parce que l'email, ça ne marche pas parce que ça a été saturé. » Enfin, on a saturé, en fait, c'est un peu la responsabilité de nous tous. On a saturé l'email. Du coup, ce que je fais globalement, c'est du LinkedIn. Quand j'avais vu ton outil, je m'étais dit « Mais en fait, c'est extraordinaire parce que du coup, je vais pouvoir avoir au même endroit le feed où je peux retrouver mes prospects et en même temps leur écrire des emails. » Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que pour toi, quand tu dis il faut construire des relations, comment concrètement, tu vois, je prends mon exemple, on va prendre un exemple très concret, genre, je sais pas, je cible des grands comptes ou des ETI avec globalement des C-level. J'ai mes petits prospects que je suis sur LinkedIn, en tout cas, je suis en contact avec eux, ils ont accepté d'être en contact, je peux leur écrire par exemple des messages LinkedIn. Enfin, tu vois, genre, il y a toujours ce truc-là de. Qu'est-ce que je leur raconte, tu vois? Est-ce que, tu vois, genre, même si, je commente leur post, est-ce que je commente leur post en disant « Ah, c'est cool, c'est intéressant, tu vois, le truc qui permet pas, en tout cas, de construire une relation. » C'est quoi, toi, tes recos, ou bien ce que tu vois, en fait, de chez tes clients qui fonctionne, quoi?
Ouais, bien sûr. Moi, je pense déjà, il y a deux choses qui sont super importantes à distinguer. C'est de savoir ton offre, donc si tu as un gros panier moyen ou pas, parce qu'en fonction, déjà, tes stratégies, elles doivent changer. Donc, en fonction de à qui on s'adresse et quel type de boîte on a. Bah, si on a un SaaS qui va vendre un logiciel, des abonnements qui vont être à moins de 20 € par mois, par exemple, on ne peut pas se permettre de faire une expérience hyper personnalisée dans la prospection. Et du coup, c'est une autre stratégie. Alors, du coup, d'où il y a pas mal de gens qui vont bourriner. Alors que si on est sur des paniers qui sont beaucoup plus élevés, 5 000 € par mois pour une agence, par exemple, ou 40 000 pour vraiment des grosses enterprises, là, il faut avoir une approche qui va être hyper personnalisée. Et on ne peut pas se permettre de brûler notre pool de leads justement en bourrinant. Et donc, pour prendre ton exemple super concret, donc la personne a été acceptée par exemple sur LinkedIn. On va partir du principe que c'est une personne qui est semi-active sur LinkedIn parce que pas tous les prospects, il faut être réaliste, sont des super actifs sur LinkedIn. Et moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas vraiment forcer le démarrage de la conversation. C'est-à-dire dire « Ah, merci » ou « Trop cool ton poste, genre rebondir rapidement », mais vraiment rebondir pour que ce soit, comme on dit, pour que ce soit pertinent, parce que la pertinence, c'est beaucoup plus important que la personnalisation. Et il y a beaucoup de gens, ils personnalisent, ils vont faire des icebreakers, et nous-mêmes, on a fait l'erreur dans le passé, alors que vraiment, c'est la pertinence qui va tout jouer. Et donc, en fait, c'est vraiment d'interagir avec la personne, tout en essayant d'être le plus pertinent possible déjà dans les commentaires. Et justement, au moment, s'il y a quelque chose qui se prête à start une conversation, se lancer justement et envoyer un DM à la personne en rebondissant sur le poste. « Ah, j'ai vu que tu parlais de ça » et tu fais une connexion ou pas directement avec ton outil ou avec ce que tu vends. Mais le but, en fait, le plus dur, c'est vraiment d'initier une conversation. Donc, initier une conversation, ce n'est pas forcément faire un pitch.
Ouais.
Ça peut être juste une phrase ou juste un truc drôle en fonction des prospects, enterprise ou pas, bien sûr, mais… Tu peux juste envoyer juste un petit DM où il y a genre 4 mots, parce qu'en fait, dans le post de la personne, il y avait 4 mots ou un emoji de référence. Et moi, j'ai une anecdote assez drôle là-dessus. Donc, je n'ai pas pitché la personne, mais il y avait un des cofondateurs d'Aircall. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. J'ai un petit trou de mémoire. Bref, un des cofondateurs qui est le plus visible, il me semble, c'est Jonathan, je ne suis pas sûr. Et il a fait un super long podcast sur YouTube. Et j'avais tout écouté et à la fin, il disait « Ouais, si les gens peuvent te contacter », mais c'était genre une seconde sur 4 heures de podcast. Et j'avais écouté le truc et il disait « Si on peut te contacter, quel mot secret ou emoji faudrait faire ?» Et il disait « Ouais, faudrait mettre un lama, mais peu importe, un lama par exemple, tu vois, un emoji. » Et du coup, j'avais entendu ça et je lui ai envoyé un DM et on s'était jamais parlé, j'avais jamais interagi avec lui. Et je lui ai envoyé un DM et je lui ai envoyé le lama, juste en DM, et je lui ai dit salut. Et il m'a répondu. Et après, tu vois, on a pu continuer la conversation. Et en fait, c'est des sortes de petits détails qui font une énorme différence parce qu'en fait, là, il n'y a même pas eu de mots, il n'y a même pas eu de pitch, mais avec un emoji, en fait,
Tu as fait référence à quelque chose qu'il avait partagé en fait sur les réseaux.
Et ouais, et qui est énorme, parce qu'en fait, se dire, ok, si tu sais ça, c'est qu'en fait, tu sais énormément de choses, tu sais vraiment intéressant, et c'est des petits détails comme ça.
Regardez en fait au moins la vidéo jusqu'au bout. Déjà, ouais, voilà. Déjà tu as pris son contenu. Ouais. Okay. Et par exemple, est-ce que tu me recommanderais, par exemple, typiquement, si par exemple, d'être vraiment straight to the point, parce que moi j'ai un peu. On entend beaucoup, tu vois, genre le sales en disant l'objectif, c'est pas prendre des rendez-vous, des discussions, etc. Moi, en fait, d'un point de vue vraiment concret, il y a un moment où j'aime bien dire qu'on a des objectifs en tant que sales, comme beaucoup de gens dans les boîtes, mais on va dire qu'on a des quarters, on a des gens à closer dans des moments bien précis. Et donc, du coup, on a un peu ce truc-là où on a hâte, en fait, de prendre un rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que le mail, je pense, fonctionne bien, parce qu'on a l'impression, on envoie un mail, on dit est-ce que tu veux un rendez-vous, ok, c'est booké dans l'agenda. On a même des gens qui envoient le calendrier directement, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais voilà. Et sur les réseaux, tu vois, je me pose toujours la question, est-ce que, parce que parfois, évidemment, il faut toujours, je pense que tu parles de pertinence, mais aussi de l'honnêteté, tu vois.
Ouais.
Commencer à faire genre, c'est incroyable ce que vous racontez, etc., etc. Mais. Par exemple, de dire, en fait, la problématique que vous soulevez là dans votre poste, moi, je bosse dessus. Est-ce que vous m'autorisez, en fait, à vous faire un petit DM? Est-ce que tu recommanderais, toi, par exemple, de faire ça à la suite d'un poste, ou encore c'est trop frontal, par exemple?
Moi, je ne ferais pas comme la phrase que tu as dit, mais je pense qu'au bout de 2-3 messages, donc tu envoies un DM, la personne te répond, tu envoies un DM. En bref, dans les 3 premiers messages, tu devrais être capable de pouvoir avoir un call ou, sans même pitcher ton offre. Juste, ce serait intéressant qu'on puisse appeler. Ou est-ce que ça te dirait, ou vous, en fonction de la personne, du contexte, genre est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un call un jour et tout? 9 chances sur 10, la personne va quand même te dire oui et tu n'auras même pas besoin de la relancer. Et je pense que c'est super naturel. Et en fait, tu n'as pas besoin de pitcher à ce moment-là de ta pertinence. Et juste de dire ça, la personne va te dire oui parce qu'en fait, elle va checker ton LinkedIn, elle va comprendre les choses.
Okay, donc toi, tu es vraiment une approche en fait où c'est… une vraie approche à réseau social, en fait. C'est pas l'approche qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, tu vois, de LinkedIn, de se dire, en fait, ouais, ok, je vais réfléchir à des stratégies, d'un message, de pitcher bien en une phrase, dire ce que je fais. Toi, t'es vraiment dans un truc naturel où on interagit ensemble, on se regarde nos réseaux, on réagit sur ce qu'on fait, comme on ferait sur Instagram, en fait. C'est plus facile de penser à Instagram.
Comme on ferait dans la vraie vie, en fait, d'une certaine manière. Et je trouve, en fait, je me suis jamais posé la question parce que ça a toujours marché, en fait. À chaque fois que je fais ça, je me suis jamais pris un refus. Et en fait, les gens te diront toujours oui. Et la personne qui te dira non, en général, c'est même elle qui va te relancer. Parce que si tu es actif sur les réseaux ou tu réinteragis avec elle, ça va se refaire naturellement. Dans les 2-3 premiers messages, si vraiment tu es dans une optique où tu as des objectifs, il faut être sérieux, juste tu me proposes de cette manière-là. Et ça marche super simplement, en fait, sans trop se prendre la tête. Et l'autre démarche, du coup, si tu ne veux pas la jouer de manière agressive ou si tu es moins dans l'objectif d'un instant T, c'est juste tout simplement envoyer ce premier DM, juste où tu as fait une accroche où vous êtes échangé 2-3 trucs. Et après, il n'y a rien eu de plus, quoi. Mais c'était juste un peu un petit truc fun, rebondir rapidement, initier la conversation. Et après, en fait, en continuant les échanges, assez naturellement, en fait, la personne elle va revenir vers toi en inbound et elle va te demander un call parce qu'en fait, elle va vraiment cliquer sur ton profil, vraiment voir ton offre. Et ça m'est arrivé facilement 10 de fois. Assez facilement, quoi.
Donc, okay. Et toi, c'est à partir de ça, du coup, que tu as construit un… Parce qu'on va en parler pour aussi également, ça a pas mal été aussi par la suite et les sujets que j'aimerais aborder avec toi. Mais du coup, à partir de cette expérience-là que tu as eue des réseaux sociaux et de ce nouveau move, en fait, tu t'es dit, en fait, aujourd'hui, on va devoir vendre un peu autrement, notamment avec l'arrivée, en tout cas, des réseaux sociaux, tu as créé Breakcall. Donc, Breakcall, en fait, fait ça. Est-ce que tu peux le pitcher rapidement
Ouais, du coup, Breakcall, comme je disais en intro, c'est un peu le CRM pour construire des relations B2B en 2023 et au-delà, et pas en 2010. Et en fait, la vraie valeur ajoutée par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous, on a créé ce qu'on appelle un feed de prospection. Donc, ça veut tout simplement dire que tu as tes prospects, tes clients existants, tes partenariats dans le CRM. Tu as au moins leur LinkedIn ou leur profil Twitter. Et en fait, Breakcall va être capable d'agréger leurs posts LinkedIn, leurs tweets, les tweets de leur boîte au sein d'un même endroit. Ce qui fait que quand tu vas sur le profil du lead, tu as tous ces posts. Tu peux nativement dans le CRM liker les posts, commenter les posts, mais aussi shooter rapidement un message LinkedIn, Twitter et email toujours dans le même endroit. Donc, c'est vraiment pensé pour être super efficace. Et en fait, ça te permet d'aller à contre-courant un peu de l'automatisation sur certains trucs. Mais surtout de jouer en fait sur l'agrégation de la data pour être hyper productif, parce qu'en fait, ça prend un temps de dingue pour savoir ce que tes prospects ou tes clients existants font. Et en fait, tu vas pouvoir créer plusieurs types de feeds, donc un peu des feeds que tu crées toi-même. Et après, bah, tu peux très bien imaginer que tu fasses un feed pour, je sais pas, en gros, tes prospects chauds, un feed pour tes clients existants, et tu peux tout segmenter comme ça. Et après, tu as juste à voir un peu leurs news. Et pour ceux qui sont moins actifs, bah, juste tu vas sur leur profil, tu revois tous leurs anciens posts, ça te donne une idée un peu de quoi ils partagent, et tu gagnes un temps phénoménal. Et pour plein de raisons, il y a plein de sales qui en fait le font manuellement. Et en général, c'est les meilleurs sales
Moi,
parce que.
je le fais manuellement, moi, en fait.
Ouais, c'est ça.
J'ai mon truc où j'ai tous mes. Ouais, je crois que je dois avoir peut-être aller une vingtaine, une trentaine d'onglets ouverts avec LinkedIn sur chaque profil, etc. Et puis je regarde, et puis bon, après, avec ça, le navigateur, etc. Et c'est infernal, en fait.
Ouais.
Mais ouais.
C'est ça. Et en fait, les meilleurs sales en général, ils font ça. Et en fait, et c'est pour ça que ce sont les meilleurs sales, parce que les autres, ils ont soit pas le temps, soit ils veulent pas le faire, soit ils n'ont pas l'énergie. Et en fait, ça demande énormément d'énergie d'ouvrir plein de fenêtres, de vraiment prendre des news, parce qu'en fait, un CRM normal, CRM plutôt du passé, eh bien, en fait, il va t'obliger en fait à retourner sur LinkedIn, retourner sur Twitter. Alors que le développement d'un CRM, si les CRM continuent vraiment de s'adapter toujours aux trends et à comment le monde change, on va dire, en B2B, en fait, il devrait vraiment inclure cette brique sociale. Et ça ne va pas juste en incluant le fait de pouvoir envoyer des messages de manière automatique sur LinkedIn. Ça passe par le fait, ce qui est un CRM, de gérer tes relations clients. C'est vraiment la base du truc.
Avoir en fait l'information au bon moment, au bon endroit pour pouvoir en fait réagir. Parce qu'en fait, la vente, c'est principalement ça. C'est la vente, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est produire un changement chez quelqu'un, de dire en fait, OK, en fait, je fonctionnais comme ça, je vais changer en achetant une solution, en mettant en place une solution. Mais pour ça, c'est tout un process. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de le faire bouger. Et pour ça, en fait, bah, tu vas avoir des indices qui vont te dire, OK, là, c'est le bon moment pour que il aille à cet endroit-là et pour que bah, en fait, je vais devoir mettre en place telle action. Et il y a plein d'informations dont tu as besoin. Donc, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est par exemple si je prends l'exemple d'un sales qui voudrait par exemple closer un deal, enfin, ou closer même plusieurs deals, c'est que globalement, tu as ton pipeline avec 40 deals, en fait, globalement, que tu essaies de faire avancer le plus vite possible avec le cycle de vente le plus court. Dans ces deals-là, tu as je ne sais pas combien de contacts, surtout quand tu commences à faire de la vente complexe. Bah, tu as plusieurs interlocuteurs. Et en fait, c'est hyper difficile aujourd'hui, enfin, avec n'importe quel CRM, d'avoir une information, une photographie en fait, de ton pipeline réel, de dire en fait, OK, bah, par exemple, sur mes 10 deals les plus chauds, pardon, qu'est-ce que font mes interlocuteurs en fait? C'est quoi le sujet? Est-ce que j'aimais bien, parce qu'en fait, dans un précédent podcast, on parlait de comment éviter le ghosting. Tu vois. Le ghosting, c'est la pire chose en fait pour les clients. Et c'est le plus gros problème en fait pour nous. Et le problème, c'est que parfois, tu vois, une urgence pour un interlocuteur, tu vois, elle peut être hyper élevée. À ce moment-là, il a besoin de ça. Et puis ça redescend. Et on parlait de ça en fait. On disait, en fait, ce moment-là, en fait, tu peux le choper pendant les réseaux sociaux. Tu peux voir en fait si par exemple il y a une nouvelle actualité, je sais pas, une vente, un rachat, une fusion, un nouveau sujet, un nouveau projet. Et ça, forcément, tu vas l'avoir sur les réseaux sociaux. Et si tu n'as pas en fait cette vue
Ouais,
comme
360.
tu le proposes, eh ben, tu fais comme ben, on faisait alors il y a quelques années où je fais toujours en fait, c'est que bah, tu appelles et que tu apprends en fait, ah ok, d'accord, donc en fait c'est pour ça que ça avance pas le deal, c'est parce que sur tel sujet. Alors que là, en fait, bah, avec ton outil, je trouve que ce qui est cool, c'est que je peux le savoir, en fait.
Et au-delà de ça, même ça paraît tout bête, mais toutes les fois où on a pu réinitier avec des prospects ou d'autres gens que je connais des
Yes.
conversations juste parce que tu as liké un post et qu'en fait la personne dit ah mais en putain on a parlé il y a un mois ensemble et donc en fait je vais juste t'envoyer un message pour le tenir au jus mais c'est des choses tellement bêtes parce que ton cerveau il va réfléchir d'un coup en fait à ça mais du coup le fait de pas le faire bah, ça te fait perdre par nature tu vois des opportunités et je pense que ouais du coup voilà.
Ouais, surtout surtout, on le dit jamais trop en sales. On a l'impression que, enfin, tu vois, genre, en vrai, il y a plein de gens qui ne vont pas soit avancer sur un deal parce que bah, ils ont des milliards de choses à faire. Et en fait, le fait que tu es sur des réseaux sociaux, c'est compliqué. En fait, déjà, en plus, c'est plus compliqué de ghoster des gens sur des réseaux sociaux, déjà. Déjà, c'est la première chose. C'est plus facile en mail et en call-call. Mais généralement, voilà, les gens ne veulent pas te ghoster, pas pour te ghoster. Soit parce qu'ils hésitent, soit. Enfin, il y a des milliards de raisons. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si on te voit présent, si vous avez une interaction, etc., ça donne beaucoup plus envie de te donner des nouvelles ou te dire, mais écoute, c'est pas le moment. Ou en fait, si c'est le moment, etc. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant d'avoir eu cette logique-là, de se dire que, en fait, aujourd'hui, va falloir que comment on a l'information plus vite que les autres, en fait.
Puis au-delà de ça, enfin, on en parlait juste un peu avant le podcast, c'est qu'aujourd'hui, les offres, elles se ressemblent de plus en plus. En fait, on est dans un marché qui devient un marché de commodité, même dans le logiciel ou pour tout type de boîte. Donc, c'est de plus en plus facile de faire un logiciel, c'est de plus en plus facile de faire une agence, c'est de plus en plus facile de faire quasiment tout type de business. Et donc, en fait, tu es dans un monde de commodité où comment tu vas faire la différence pour vendre ton service ou ton logiciel quand tout le monde fait plus ou moins la même chose. Après, c'est du branding, etc. Mais comment tu vas te démarquer pour gagner le deal? Et en fait, c'est comme ça que tu peux faire la différence, parce qu'au final, un prospect, quand il a le choix, il va se dire, bon, je prends la personne avec laquelle je suis le plus proche ou que j'aime le plus. Et en fait, c'est ce genre de petits détails, de fait de pouvoir interagir avec cette personne au quotidien. Et en fait, du coup, dans la tête de cette personne, tu es, comme on dit en anglais, tu es top of mind. Et du coup, elle va se rappeler de toi direct. Et en fait, moi, je trouve le fait de vraiment la travailler au corps, que ce soit à la fois par email, en call, mais ensuite toujours sur les réseaux si elle est un peu active, tu es un peu comme une pub vivante qui en fait est tout le temps là, qui lui rappelle toujours que tu es là. Tu es un peu comme la pub YouTube, sauf que là, tu es sur LinkedIn, Twitter, tu es partout. Et en fait, elle est obligée de se souvenir de toi. Et c'est comme ça que tu fais la différence dans un marché qui, moi, je trouve, t'enverra un peu ce marché de...
En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Déjà, en fait, déjà, il y a très longtemps, on disait déjà qu'en fait, les gens achètent plutôt un commercial plutôt qu'un produit avant tout. Ouais. Côté où, voilà, en fait, et moi, pendant tout, depuis que je suis sales, je sais que je le vérifie vraiment. Je vois vraiment que, en fait, les gens achètent un package. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est hyper intéressant de dire, voilà, en fait, aujourd'hui, pour tout le monde pose la question de comment faire face à la concurrence. Et en fait, ça se trouve, en fait, ce n'est pas les produits qui feront la différence. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu dis, c'est pour un problème, il y a des milliards de solutions. Et en fait, c'est compliqué en fait, aujourd'hui pour un prospect de se dire, en fait, c'est quoi la meilleure solution, tu vois. Genre même juste pour un CRM, tu vois, par exemple. C'est quoi la meilleure solution, etc. Ouais. Donc, du coup, effectivement, ça va être peut-être le... Enfin, ça même pas peut-être, je pense que c'est sûr. Ça va être le sales, en fait, dans sa capacité à être expert. Ou en tout cas, apporter de la manière la plus cool, la plus fluide, la solution. Et pour ça, en fait, il faut que tu le vois, il faut que tu l'entendes, il faut que tu... Enfin voilà, comme tu dis, en fait, il faut que ce soit un peu une pub vivante. Voilà. Mais après, du coup, la question qui vient... en tout cas, moi qui me pose question, notamment par rapport à tous les sales, comment on les forme aujourd'hui, la manière dont on forme les sales en mode... faut que tu prospectes. On dit, vas-y, tu prends Galaxy, tu prends Phantom Buster, tu prends ça, tu fais des séquences comme ça, etc., etc. Dans ta logique, en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est à déconstruire pour reconstruire en fait un truc où on est... Alors évidemment, quand on est sur des paniers assez hauts, mais bon, la plupart... je pense qu'aujourd'hui, quand tu as des paniers bas, aujourd'hui, on voit tout le content qu'il peut y avoir sur le product-led sales, ou c'est des choses... Ouais. Seul, etc., etc., où il y aura beaucoup moins besoin de force commerciale humaine, j'ai envie de dire. Mais quand il y a besoin de la force commerciale humaine, toi, aujourd'hui, du coup, tu es plus dans une approche de personnalisation, mais aussi également d'improvisation, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, clairement, parce que j'avais jamais vu de cette manière-là l'improvisation, c'est marrant.
En fait, c'est de l'improvisation, mais structurée, parce que tu as un tool qui te permet, en fait, d'avoir énormément d'informations agrégées. C'est structuré, c'est organisé, donc tu peux te permettre de l'improvisation là où avant, ce n'était pas possible, tu vois.
Ouais, mais en fait, je pense pas que tous les sales soient formés comme ça, mais oui, par rapport à ce que tu dis, c'est, ils sont en mode prospecter, alors que moi, je pense que, et je suis pas le seul à le penser, bien loin de là, c'est qu'il faut vraiment prendre la chose comme un tout aujourd'hui. Et que c'est simple, les prospects, il y en a, ils vont closer en un jour, tu auras de la chance, il y en a, ils vont closer en une semaine, il y en a, ils vont closer dans 6 mois, il y en a, ils vont closer dans 12 mois. En fait, tu peux juste des fois pas savoir s'ils vont closer rapidement ou si tu vas générer ces personnes en tant que prospect. Mais tu sais qu'à un moment donné, si vraiment t'es là, t'es la pub vivante, tu vois, ils vont te parler un moment, ils vont closer un moment, et il faut juste que tu sois là, actif, quand eux, ils sont actifs quelque part sur les réseaux ou ailleurs. Et donc, en fait, il faut vraiment le prendre comme ça. Et moi, je le prends un peu comme un cercle vertueux où, en fait, bah, tu vas être actif, tu vas travailler au corps ces prospects sur les réseaux ou par email. À un moment, tu vas générer des leads. Ces leads vont sans doute être intéressants et des prospects chauds. Tu dois toujours continuer ton travail sur les réseaux, c'est-à-dire aller surveiller, voir ce qu'ils font, liker leurs posts, commenter quand il y a du sens, envoyer un DM s'il y a du sens sans forcément pitcher parce que tu sais que ce n'est pas le moment pour eux parce que tu as eu un call à un moment donné avec eux. Donc tu sais que c'est des prospects chauds, mais voilà. Et en fait, tu continues toujours ce travail. À un moment, parce que tu as continué ce travail, ils vont closer. Et pendant tout ce processus, bien évidemment, si vraiment on pousse le sales moderne, tu postes, pas forcément tous les jours, mais tu postes sur les réseaux parce que si tu commentes leurs posts ou si tu interagis avec eux, tu leur parles, en fait, l'algo va te les recommander, enfin, tu vas être recommandé dans leur feed quand toi tu vas poster. Donc ça fait un double cercle. Donc à un moment, ils vont forcément closer où il va se passer quelque chose de très positif. Et si tu continues aussi ce travail, une fois qu'ils ont closé, parce que ça ne se termine pas que là, même si en fonction des orgas, ça change, ça va à l'AI, etc. Mais en fait, ça va aussi avoir un impact positif sur bah, du coup, ta brand et sur ton bouche à oreille, parce que bah, tu continues en fait d'être quelqu'un de super nice avec ton prospect qui a closé, et tu vas avoir du bouche à oreille, tu vas avoir plus de feedback, parce que quelqu'un qui est en confiance avec toi va donner plus de feedback sur ta solution. Et en fait, in fine, quand tu vas reprospecter from scratch sur la partie cold, ça va être plus facile parce que ta brand, elle aura pris, tu auras des supporters. Et en fait, plus tu fais ça, plus en fait, ça devient de plus en plus facile de prospecter et de plus en plus facile de closer d'une certaine manière parce qu'après, tu as des reviews, etc., etc. C'est pour ça que les grosses boîtes, en général, enfin, j'ai jamais été sales dans une grosse boîte en tout cas, mais je pense qu'ils disent souvent qu'un vrai sales, tu le vois quand il arrive à vendre des trucs où il n'y a pas de trust, où c'est un produit from scratch. Et taper des gros objectifs, peut-être je caricature bien sûr, tu vois, mais faire des gros objectifs, peut-être dans un Salesforce ou ailleurs, c'est forcément plus facile quand tu as eu tout le trust, etc. Et en fait, c'est exactement ça dans ce schéma de cercle vertueux. En fait, il faut vraiment le voir en 60 degrés. Et il y a beaucoup de gens, ils disent juste, ouais, un cold email, ça génère un lead ou pas. Next. Et, oh, j'ai un lead chaud. Non, en fait, il ne veut pas acheter. Bon, bah, je ne le relance jamais. En fait, je ne retravaille pas. Alors qu'en fait,
Mais c'est absolument pas ça. Enfin, le nombre de gens, heureusement que j'ai travaillé au corps sur 1 an, 2 ans. Et puis j'ai toujours en plus ma liste de targets, en fait, me dire, ouais, allez, même si c'est dans 3 ans, 4 ans, je les aurai un jour. Enfin, je pense que tu as raison sur le truc, il faut être. Enfin, je pense que les meilleurs sales sont patients, en fait. En vrai, tu as conscience aussi également qu'il y a un moment de mature. Enfin, déjà, ton produit, le temps. Enfin, ça dépend de ton produit, mais que si ton produit n'est pas encore assez mature sur le marché, il prendra du temps. Et donc, forcément, ta prospection, il faut qu'elle prenne du temps, il faut que tu sois patient, quoi.
non, c'est ça.
Mais il y a une question que j'aimerais te poser, j'en ai même deux, mais la première, c'est du coup, une fois j'avais dit à des potes sales, ça se trouve en fait, notre métier aujourd'hui va complètement c'est pas, disparaître, au contraire, mais en fait, en gros, on sera obligé d'être des marketeurs. Tu vois, tu connais, je sais pas, tu connais la guerre entre le sales et le marketing depuis des années. Et aujourd'hui, tu vois, moi je me rends compte moi-même, tu vois, je crée du contenu. Aujourd'hui, et je me rends compte, tu vois, genre, alors je crée du contenu sur du sales, mais ce qui est marrant, c'est que même sur des cibles qui ne sont pas du tout des sales, bon, ça m'est arrivé là dernièrement de faire de la vente sur des profils plutôt responsables recrutement, etc., mais qui disaient qu'ils regardaient mon contenu, tu vois. Mais du coup, ça facilitait vraiment l'échange, la discussion en mode genre, ah ouais, j'ai vu cet article-là, ça fonctionne un peu quand même, le recrutement, etc. Donc on voit en fait effectivement, est-ce que toi tu penses aujourd'hui que bah, les sales en fait doivent avoir des skills en marketing pour pouvoir en fait savoir vendre maintenant en 2023, quoi, en gros.
Moi, je pense personnellement, après, ça dépend tellement des orgas, si on est honnête, mais je pense clairement que c'est un métier qui va fusionner, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de dissociation entre un sales. Après, ça dépend, encore une fois, beaucoup des orgas, mais je pense vraiment que c'est un métier qui va fusionner et qu'un sales moderne, ce sera en fait à la fois un marketeur et un sales. Et je pense, sur les boîtes qui grossissent le plus rapidement, que ce soit dans la tech ou pas dans la tech, on le voit déjà, en fait. C'est-à-dire que des fois ils disent c'est sales, mais tu as plus l'impression que c'est des. Ils disent qu'ils sont sales chez X, mais en fait c'est plutôt des gros marketeurs qui savent très bien closer après d'ailleurs. Et en fait, je pense que c'est un métier qui va totalement fusionner. Et donc, je pense que les marketeurs vont à la fois devenir sales et les sales vont à la fois devenir des marketeurs. Et je pense que, ouais, enfin, moi je le vois vraiment comme ça.
Ok, je te pose la question tout simplement parce qu'en fait, je sais que Par exemple, c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est par... même qu'aujourd'hui, quand tu regardes LinkedIn, tu as énormément de personnes du marketing qui s'expriment sur LinkedIn ou qui font du content, etc. Tu commences à avoir des sales, mais c'est vraiment tout nouveau. Et généralement, en fait, la manière de prospecter chez les sales via les réseaux sociaux, c'est principalement sur LinkedIn et c'est principalement en DM, tu vois. Et là, en fait, dans la manière dont toi, tu présentes un petit peu les choses et la manière de prospecter aujourd'hui, comment il faudrait faire pour pouvoir justement construire cette relation, c'est effectivement faire du DM, mais aussi également interagir avec des postes. Donc, ça veut dire aussi également se montrer. Et ce n'est pas forcément une culture, tu vois. En tout cas, je parle en France, hein, je ne parle pas du tout. Aux US où c'est un autre monde. Je parle vraiment de la culture sales en France, où du coup, en fait, y a quand même cette séparation où on voit globalement les sales vont vouloir... On voit, avoir assez peur et se dire voilà, on va rester beaucoup sur l'email. Déjà, le cold call, ce n'est pas évident, mais aussi également s'exposer sur les réseaux, c'est encore moins évident, tu vois. Genre,
Après, je pense que la grande majorité des sales, du coup, sont pas forcément des copywriters. Il y a plein de skills qui s'apprennent, mais entre tous les outils qui arrivent, l'IA aussi d'une certaine manière, même sans l'IA, même si on a enlevé l'IA, je pense que tu vois, il pourrait juste avoir une fusion aussi du métier au sens que tu peux très bien avoir un sales qui poste sur les réseaux et tu sais le sales qui a posté, mais en réalité, c'est quelqu'un du marketing qui a écrit le post. Et je pense qu'il y a forcément des outils qui se développent et qui sont en train de développer où justement, tu, en tant qu'une équipe de sales, tu postes sur les réseaux dans ta stratégie, c'est intégré avec ton pipe, c'est intégré avec plein de choses. Mais derrière, en fait, c'est l'équipe marketing qui a écrit tes posts. Toi, tu diriges les idées parce qu'au final, vous avez la même connaissance. Et ça va justement favoriser à rapprocher justement le sales et le marketing, notamment parce qu'il y a toujours une dissociation où des fois, ils se détestent. Et je pense que ça va plutôt évoluer comme ça. Donc, il y a déjà des ghostwriters pour des CEO, des C-levels, mais moi, ça ne me paraît pas du tout déconnant, voire ça doit déjà être le cas. Ça l'est sur Twitter, par exemple, d'avoir des ghostwriters, même pour des sales dans une boîte et d'avoir des agences qui vont se développer autour de ça. Donc, c'est sûr.
OK. Alors, du coup, en fait, je voudrais juste aller plus loin en mode, OK, moi, si demain, je t'ai parlé d'un premier use case, en gros, j'ai envie de... Enfin, j'attaque les grands comptes, les ETI, et du coup, je dois prospecter des C-level dans cette boîte pour vendre un produit. On a parlé des canaux un peu plus classiques. Enfin, quand je parle classique, c'est voilà. Tu parles souvent de Twitter, qui pour moi, en France, je trouve que c'est pas classique, tu vois, de prospecter sur Twitter. Et donc, j'aimerais bien, que tu donnes un petit peu des types d'usages, en fait. Comment, en fait, en tant que sales, tu peux utiliser aujourd'hui en France Twitter? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu l'utilises Est-ce qu'il y a des personas sur lesquels c'est plus simple que, ou non? Et j'imagine que tu as une vision d'aller peut-être beaucoup plus loin. Alors, tu parlais de YouTube, tu parlais d'Instagram. Qu'est-ce que tu as un peu en tête, genre justement, sur ce qui pourrait être possible, en fait, comme prospection
Twitter, pour le coup, on connaît bien parce que nous, Breakout, on s'était développé beaucoup sur Twitter, en fait. On n'a jamais fait vraiment LinkedIn, on n'a toujours pas vraiment commencé. Et en fait, sur Twitter, on peut dire il y a trois manières de le faire. Si on parle d'une manière assez basique en tant que sales, ce serait tout simplement en fait Twitter, c'est beaucoup plus simple de scraper, d'avoir des infos sur Twitter que sur LinkedIn. Et donc, en tant que sales, si on parle de prospection pure là, quelque chose de très bête que personne fait tant que ça en France, c'est d'utiliser des outils comme par exemple Scrappy Bird qui vont permettre en fait de télécharger, de scraper tous les followers ou tous les likes commentaires d'un compte Twitter ou de tweets. Donc à la base, ça vient de là. Ceux qui l'ont fait sur LinkedIn, que vous entendez, sachez-le, ils ont pris l'idée et qu'elle vient de Twitter. Ouais. Et en fait, sauf que sur Twitter, tu peux avoir tous les abonnés d'une boîte Twitter, enfin d'un compte Twitter. Et donc, tu peux vraiment aller t'arrêter, un Salesforce, n'importe quoi, prendre tous les abonnés, enrichir avec l'email B2B valide. Et ensuite prospecter et faire un truc super relevant en disant je vois que tu follow tel influenceur B2B, c'est assez naturel. Après, c'est à toi de bien faire ton pitch, ton cold email. Et en fait, tu peux faire des trucs de dingue. Et il y a des boîtes qui vraiment scale fort juste en targetant des profils B2B comme ça sur Twitter. Donc, si on parle de prospection pure, il y a ça.
C'est assez ouf parce qu'effectivement, tu vois, genre dire ce genre d'approche en disant je vois que tu suis tel influenceur, comme en fait, sur. Ça serait moins vrai sur LinkedIn, je vois que tu suis. En fait, tu vois, quand on dit je vois que tu suis telle personne, ça fait un plouf, tu vois. Genre, c'est pas tout le monde se connecte avec tout le monde, etc. Par contre, vraiment, genre, choper des abonnés sur Twitter, c'est vraiment. C'est beaucoup plus dur, tu vois. Quand tu follow quelqu'un sur Twitter, ça veut dire vraiment quelque chose, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant.
Et il y a plus de posts viraux sur Twitter que LinkedIn, je trouve. Et c'est plus facile de les trouver, surtout, avec Twitter, via la search de Twitter. Donc, tu peux trouver des posts viraux dans ton industrie très facilement avec Twitter, qui ont 1000, 2000, 3000, 4000 likes, qui ont plein de commentaires, ou des gens qui ont répondu à des lead magnets, et en fait, juste bah, les retargeter, en fait. Et c'est NAD, mais c'est NAD cold email, quoi. Et donc, premier moyen sur Twitter. Deuxième moyen sur Twitter, bah, c'est un lead magnet, hein, comme il y en a plein qui le font sur LinkedIn, mais tu peux beaucoup plus automatiser sur Twitter, genre ah, j'ai fait ça, liker, commenter, follower. Et après, ça reste très basique, hein, c'est du DM, comme on en a partout. Mais contrairement à LinkedIn, bah, en fait, tu peux tellement mieux optimiser tes recherches sur Twitter que voilà, avec des outils très simples, hein, que tout le monde connaît, je pense, comme TweetDeck. Où en fait, bah, tu mets des keywords et tu peux vraiment traquer les keywords de tes concurrents, mais pas que, et même ta propre brand, parce que bah, voilà, des gens parlent sur ta brand, mais tu ne le sais pas forcément. Et donc, c'est comme ça que tu peux vraiment leverager Twitter pour prospecter, quoi.
Ok. Et du coup, toi, ce serait quoi, du coup, la next step, en fait, du coup, tu as commencé par LinkedIn, Twitter, aujourd'hui sur la partie prospection dans Break Cold, qui nous permet en fait de pouvoir agir. C'est quoi la next step pour toi en fait en termes de sur la partie B2B, ce que tu vois, ce que tu prévois en fait comme voilà.
Bah nous on est très B2B, je pense. D'abord on va essayer d'être très très fort sur LinkedIn et Twitter. C'est déjà pas mal si on arrive à être vraiment très bon là-dessus, vu que personne ne le fait vraiment comme on le fait. Mais après je pense que ça dépend vraiment des demandes des users. Je pense bizarrement Facebook c'est quand même assez demandé. Parce qu'il y a beaucoup de... Si on parle vraiment du marché anglophone, c'est vraiment plus ce que je connais pour le coup. Mais même en France, hein, on voit qu'il y a beaucoup de SMBs, de PME qui font beaucoup de business sur Facebook. Même avec les business locaux, quoi, enfin, des e-commerce ou peu importe. Facebook, c'est encore très important. Et donc, intégrer un feed Facebook, ça a énormément de sens quand on veut viser des business plus locaux ou des plus petites PME qui ne sont pas forcément des PME du digital, quoi. Il y a un gros sens là-dessus. Et du coup, Instagram, ça va forcément de pair. Donc, c'est des choses qui, en vrai, sont intéressantes sur le B2B, que les gens pensent moins, mais tu fais une grosse différence. Et nous, on avait des clients, par exemple, ils visaient des mairies, par exemple. Et les mairies, elles ne sont pas forcément actives sur LinkedIn, mais sur Twitter.
Et sur Facebook et Twitter, c'est incroyable.
C'était incroyable. Et en fait, ils ont généré des leads voilà, en se servant du feed, en voyant les posts, en likant, en rebondissant. En plus, personne like trop les posts du
DM. En fait,
une différence qui est monumentale par rapport à un truc classique, quoi, tout simplement. Et après, non, et ce qui est intéressant, c'est que après, vu que je pense qu'on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de shorts, il y a de plus en plus de contenu court. Et donc, les boîtes, même celles qui ont moins de moyens, donc on va dire une boîte qui est au minimum 10 personnes, elle va commencer à investir dans des shorts, elle va commencer à investir du contenu court. Je pense que la tendance va faire que grandir. Et donc, ce n'est pas déconnant en fait, d'essayer ou de pouvoir intégrer un feed YouTube, shorts, les reels de Insta ou même TikTok. En fait, c'est un peu les company news, tu vois, mais en version shorts, et de rebondir là-dessus. Et en fait, tout ce type d'infos, et en fait, à la fin, c'est à toi de leverager la meilleure info qui est mieux pour gagner 3 mois pour établir une relation rapidement. En fait, c'est à toi de gérer le truc parce que si tu utilises bien une information, tu peux accélérer ton process en fonction de ta voix, bien évidemment, de 1 mois, 2 mois, 3 mois, quoi, et accélérer une vente aussi. Donc, je pense que ces vidéos, ça va être quand même un gros truc, quoi, de pouvoir cliquer. Tu as les news normales et à gauche, tu as aussi les news vidéo, par exemple.
Ok. Du coup, si je dois un peu résumer en fait notre discussion, c'est-à-dire que pour toi en fait aujourd'hui, enfin la manière aussi dont tu as construit ton outil, mais aussi la manière aujourd'hui un sales devrait prospecter, c'est vraiment essayer d'avoir en fait tous ces canaux au même endroit et notamment la partie sociale pour pouvoir pas forcément que générer des leads, mais aussi également closer ces deals plus facilement. Et même en fait j'ai envie d'aller même plus loin, c'est-à-dire que alors parce que moi en fait j'ai souvent le truc à 360, c'est-à-dire que évidemment tu génères des leads, tu closes. Mais après, tu recloses ou tu upsell ou tu…
bien sûr. C'est ce qu'on disait.
Voilà. Et du coup, je trouve en fait, il y a un truc qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que souvent, c'est un gros problème chez les sales. Enfin, chez les sales et surtout dans certaines organisations, je ne parle pas des organisations hyper structurées dans des grands groupes, etc., où tu as des milliers et des milliers d'account managers, etc., mais notamment soit dans des startups ou même dans des PME, où bah, en fait, tu as souvent un sales qui fait tout, ou des équipes qui vont juste faire du SDR, mais autrement, on va avoir faire du newbies et de la cant. Du coup, on va pouvoir. Enfin, le CAM va peut-être perdre plein d'opportunités parce qu'il n'aura pas une assez bonne connaissance en fait également de ses clients. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bah, du coup, tes clients, même s'ils sont tes clients et ils achètent, ils ont une actualité. Et cette actualité aussi également, c'est important de pouvoir la suivre. Est-ce que tu as déjà eu ces cas d'usage en fait où, aujourd'hui de se dire bah voilà, en fait aujourd'hui je suis capable de dire voilà, j'ai mon client qui est là dans, parce que tu as pensé en fait ton outil comme un CRM, et donc du coup en fait bah tu as aussi cette brique customer aussi, de se dire voilà, où en sont les clients, qu'est-ce qu'ils partagent, et comment je reste toujours en contact. On dit souvent que combien de temps tu vois tu dois rester, enfin combien de fois tu dois interagir avec tes clients. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'auras plus forcément à te poser la question de si je me mets une alerte pour lui dire hey, coucou, ça va. Tu vois, genre, je sais pas.
Ouais, non, mais clairement. Et nous, ouais, c'est ça. On pensait. Enfin, nous, on le pense plus comme un outil pour closer plus rapidement et améliorer le feedback, le bouche à oreille, la rétention et aussi bah, l'upsell, forcément. Et en fait, bah, si tu as juste créé des listes, parce que ton feed, en fait, il va s'adapter en fonction des listes que tu crées. Donc, ça peut être C-level, ça peut être vraiment ce que tu veux. Il va aussi s'adapter en fonction de où sont tes contacts B2B dans ton sales pipeline. Donc, tu as juste à mettre un filtre sur closed, par exemple. Et après, bah, tu vois l'actu de ce qu'on close et juste interagir avec eux. Tu rebondis s'il y a moyen ou pas. De toute façon, tu as un historique. Et en fait, tu peux continuer à construire la relation avec eux. Et en fait, naturellement, ça améliore, ça accélère justement cette feedback loop, et ils ont plus de chances d'upgrade parce que bah, encore une fois, tu es top of mind. Et donc, s'ils ont une question, en fait, c'est comme si tu leur avais parlé aujourd'hui ou hier, par exemple. Et ils vont penser à toi, quoi.
Ok. Du coup, en fait, en gros, si je dois résumer, c'est qu'en fait, avec Breakhold, globalement, en fait, je suis tout le temps avec mes clients. Ils sont tout le temps avec moi. En tout cas, ils ont toujours l'impression d'être avec moi et j'ai toujours l'impression d'être avec eux. C'est un peu ça, quoi, en fait, globalement.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est un peu ce que rêve les enfin c'est un peu le rêve des sales quand même, hein, d'avoir en fait, ça, sans trop mettre d'efforts en fait, enfin en termes de démultiplier son temps, quoi.
Ouais, après bien évidemment tous les prospects ne sont pas actifs ou suractifs sur les réseaux, mais ça change de plus en plus, tout le monde est au moins un peu actif, donc déjà ça c'est très gros bonus. Et deux, leur boîte, elle est active, ou quelqu'un d'autre dans leur boîte est active, sont actifs, pardon. Et donc, en fait, si on additionne tout, il y aura toujours un truc, ça c'est sûr. Et donc, en général, voilà, on est souvent sur des business, des startups ou des agences ou autres qui travaillent dans le digital. Donc, si tu travailles dans le digital, tu es forcément actif.
T'es obligé de communiquer ça. Ok. Et,
ouais, comme ça que tu fais la nuit.
En tout cas, c'est trop cool. En tout cas, ça permet vraiment de faire la diff, en fait. Et, enfin, moi, j'ai kiffé, en tout cas, de l'expérience quand j'ai vu ton tools. Je vois vraiment, en fait, ce qu'on peut en faire et comment justement faire cette différence-là. J'ai dernière question. Aujourd'hui, si par exemple, tu l'as dit, tout le monde n'est pas actif, est-ce que tu peux me donner, alors juste pour répondre à un cas précis que j'ai actuellement par rapport ici. Donc, je te challenge un peu. J'ai une cible où, en fait, effectivement, c'est les organisations qui sont qui communiquent, un peu comme les institutionnels, tu vois. Les institutionnels où ils vont toujours dire « Nous sommes là, nous sommes à tel moment, etc. etc. » Voilà. Par contre, ma target, vraiment, si tu vas regarder sur ton feed, je pense qu'il doit avoir peut-être un repartage, un retargeting, pas plus. Aujourd'hui, si par exemple, j'utilise Breakhold et que je vois, en fait, globalement, cette partie organisation, tu vois, genre qui partage… Mais du coup, mon interlocuteur, comment tu l'aborderais en fait aujourd'hui, par exemple sur LinkedIn?
Ok, déjà, j'imagine que c'est un gros panier. On part de ce principe-là. On part du principe que c'est un très gros panier, donc forcément, déjà, tu dois un minimum être super pertinent, mais ultra personnalisé. Et du coup, moi, comment je le ferais, en tout cas, c'est je leveragerais forcément les news qu'il a repartagées. Donc, je rebondirais. Déjà, je ferai une vidéo. Je ferai pas un email. Je pense sans doute que je ferai pas un email qui est purement du texte. Si la personne est connectée sur LinkedIn, sans doute je ferai plutôt un DM qu'un email. Mais en tout cas, je ferai une vidéo, donc une vidéo, genre une vidéo long, quoi, et qui est vraiment axée sur la personne et où par rapport à toutes les infos que tu as, dès le début, tu vas dans le vif du sujet. que la personne ne comprenne pas que ce soit une vidéo générique ou automatisée ou peu importe si elle le sait. Et tu passes, comme j'ai déjà fait pour des prospects qui ont beaucoup moins de valeur qu'un panier, 10-15 minutes uniquement sur ce qu'elle a repartagé et les connexions que tu fais par rapport à la boîte où elle travaille. Et du coup, tout en faisant la vidéo, du coup, faire des axes de discussion potentiels pour un appel ou pour commencer à discuter. Moi, c'est comme ça que je ferais. Elle serait assez basique, mais je reprendrais
je partirai en fait de ce qu'ils ont repartagé, c'est-à-dire que c'est en gros ce que je voulais savoir, c'était c'est pas obligé que eux-mêmes créent du contenu.
Totalement.
Voilà, c'est-à-dire en gros vous avez repartagé ça, j'ai vu que votre boîte a fait ça, je pense qu'il y a un intérêt là-dessus, peut-être qu'on devrait s'appeler, etc. Voilà, la manière classique. Ok.
Ouais, c'est ça. Et la personne en plus, elle se dit, si on rentre dans ce contexte-là, en général les personnes ne sont pas très actives, en plus ils repartagent sans mettre de texte ou autre, juste il faut un repartager. Et au moins, la personne, c'est des trucs très bêtes, mais bon, c'est un peu psychologique, en fait. Elle dit, bon, au moins, je repartage pas pour rien. Et ça fait, on est toujours dans de l'ego, au final. Et le fait de dire, j'ai vu votre repartage, j'ai dit, je le fais pas pour rien. Et enfin, déjà, ça fait un mini-gag dans le cerveau de la personne. C'est des choses très bêtes, mais qui ont un impact, quoi.
Bon, en tout cas, trop cool. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux sales qui sont toujours pas démarrés, en fait leur travail sur les réseaux sociaux.
De n'importe quel aspect. Déjà, mettez une photo si vous n'avez pas de photo.
C'est vrai qu'il y en a un tas qui ne mettent pas de photo. Il y en a un tas qui ne mettent pas de photo, ça c'est vrai. Okay.
Non, je pense que si vous êtes un sales, plutôt dans une boîte où vous avez une centaine de... Enfin, vous n'avez pas des milliers de prospects à contacter par mois et que c'est plutôt de l'ABM... je pense que ça ne ferait pas de mal de même si vous n'utilisez pas d'outils, de au moins avoir de mettre en favori sur Safari ou Chrome vos prospects les plus clés. Parce que même si vous avez beaucoup de prospects, allez, on dit que vous avez 1000 prospects au pif. Et sur ces 1000, il y en a forcément 50 dans le lot que vous savez qu'à un moment, ils vont close si vous les travaillez au corps. Et donc, c'est un peu se faire un peu sa liste ultime des prospects idéaux d'idéaux. Il y en a genre 20-30 sur ces 1000. Voilà, faut toujours les travailler. Et à côté, si vous les bourrinez, au-delà de 1000 d'ailleurs, si vous êtes vraiment un bourrin, vous bourrinez. Donc, vous avez votre tiers B, tiers C, tiers D où ça bourrine. Mais le tiers A, vous en prenez soin comme des malades. Et vous savez que c'est ceux qui vont, au-delà de faire atteindre votre objectif, vont vous surperformer, faire vos... avoir des bonus sympas et après vous avez vos tiers où vous bourrinez pour atteindre l'objectif quoi. Enfin, moi je verrais comme ça.
Trop cool. Écoute, excellent conseil. Merci beaucoup Arnaud. J'espère que en tout cas ton outil va être dans toutes les boîtes parce que en tout cas je pense que ça permettra à beaucoup beaucoup de sales de performer. Merci énormément parce que tu m'as fait découvrir un nouvel outil, un nouvel univers et en fait en tout cas je pense que ça permet vraiment d'être plus performant. Donc très très cool. Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, Laetitia. Bye.
À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Et ben voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore à Arnaud pour cet échange et ses super conseils. Vous pouvez aller le suivre sur LinkedIn. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Et si ça t'a plu, c'est maintenant qu'il faut m'aider et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu as Apple Podcast ou Spotify, tu peux me mettre un avis 5 étoiles de préférence pour bien référencer le podcast et surtout le faire découvrir à plus de personnes. Et si tu veux aller plus loin, accéder aux meilleures ressources pour vendre plus, abonne-toi à Newsletter Vendu. Je te mets aussi le lien dans la description du podcast. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.